près de toi.
Très près de toi.
Près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour, chers amis, chers auditeurs. Je suis avec Thierry Paré, Marie Bonisseau. On attend Marie Missé, on attend le professeur Rollin. Voilà, on est à Paris, on tient la boutique pendant qu'Edouard travaille. Il travaille en Cannes, voilà. Et juste tout de suite, là, Thierry Paré pour les
salut.
Infos.
Salut,
salut, ça va?
Bonjour à tous. La police privilégie la piste terroriste. La première ministre britannique Theresa May évoque un acte terroriste épouvantable. L'attentat reste néanmoins pas totalement confirmé. On va donc rester encore très prudent. Quoi qu'il en soit, et vous l'apprenez peut-être ce matin, une explosion a retenti hier soir aux alentours de 22h30, donc 23h30 en France, à la Manchester Arena, l'une des plus grosses salles de spectacle d'Europe, donc à Manchester, où se produisait la chanteuse américaine Ariana Grande. Le bilan, il est très lourd, hein, puisqu'il fait état à l'heure qu'il est de 19 morts pour une cinquantaine ou soixantaine de blessés. C'est un bilan qui évolue et qui risque encore, hélas, d'évoluer à un bon moment compte tenu du nombre de blessés graves. L'explosion a retenti à la fin du concert d'Ariana Grande à l'une des principales entrées de la salle de spectacle, donc a priori au pire endroit et au pire moment, celui où de nombreuses personnes se dirigent vers les sorties. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de panique, évidemment, comme on peut s'en douter. L'artiste, elle s'est dite brisée. Elle a décidé d'interrompre sa tournée européenne. Il y a des élections législatives, comme en France, hein, en Angleterre, le mois prochain, et la campagne de ces élections législatives a, elle aussi, été suspendu. Aujourd'hui, le gouvernement britannique va se réunir en urgence. Et si la nature terroriste de cette explosion est confirmée, alors il s'agira de l'attentat le plus meurtrier depuis Londres en juillet 2005, où 56 personnes avaient été tuées. Dans le reste de l'actualité, même si ça peut paraître évidemment plus anecdotique, Emmanuel Macron va recevoir les principaux syndicats professionnels et organisations patronales aujourd'hui à l'Élysée. Au programme des discussions, le délicat sujet de la réforme du Code du travail. L'exercice, il s'annonce éminemment explosif au vu de la méthode d'application de cette réforme. Pour aller plus vite, Emmanuel Macron a annoncé pendant sa campagne présidentielle qu'il légiférerait par ordonnance. Alors si le MEDEF espère que l'exécutif disposera d'une majorité après les législatives pour pouvoir faire passer ses ordonnances, c'est une méthode que la CGT elle juge irrecevable, et la centrale syndicale affirme par ailleurs qu'assouplir le code du travail ne permet pas de lutter contre le chômage. Donald Trump est arrivé en Israël hier comme prévu. Hein, au premier jour de sa visite, le président américain s'en est vivement pris à l'Iran, comme il l'avait fait d'ailleurs la veille lors de son déplacement en Arabie Saoudite. Selon Donald Trump, il y a bien une convergence d'intérêt entre les pays arabes et Israël face à la République islamique et face à l'extrémisme. Donald Trump qui a également indiqué n'avoir jamais cité Israël comme source de ses informations lors de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères il y a deux semaines. Le président américain avait été notamment accusé par le Washington Post d'avoir fourni aux Russes des informations classifiées. 100 000 fonctionnaires voués à l'anéantissement professionnel en Turquie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une expression qui est signée Amnesty International dans le cadre de la purge, hein, qui a suivi le coup d'État manqué l'année dernière, au mois de juillet. Médecins, policiers, enseignants, universitaires, soldats, autant de personnes bannies de la fonction publique, soudainement qualifiées de terroristes du jour au lendemain et luttant désormais tout simplement pour joindre les deux bouts. L'ex-présidente sud-coréenne Park Jung-hi a comparu hier devant un tribunal de Séoul à l'ouverture de son procès pour corruption dans la retentissante affaire qui a précipiter sa destitution. Et puis la réforme des rythmes scolaires qui aura fait long feu à Marseille. La ville n'attend que la publication du décret d'application donnant le choix aux communes de renoncer ou non à cette réforme pour tout arrêter tout simplement. Alors concrètement, Marseille reviendrait donc à la semaine de 4 jours à l'école, et la ville, elle compte 444 écoles.
Il y a aussi le retour du grec et du latin.
Peut-être.
Ouais, voilà, oui, c'est important. On a eu François Rollin qui vient d'arriver.
Comment qui vient d'arriver? Ça fait une demi-heure que je suis
cafeter,
là.
J'adore
que Atman et que vous me dites non, ben rentre pas dans le studio.
Oui, c'est vrai.
Je
c'est
préfère
vrai.
Faire non, l'émission tout seul. Heureusement, Thierry, à un moment donné, m'a fait signe, mais il m'a dit force voilà, le passage, ouais. Rentre.
Parce gêné, hein.
Oui, c'est vrai, je suis un peu délateur. Est-ce qu'Edouard est là? Non?
Edouard qui?
Edouard Baird.
Edouard Philippe?
Non, il est toujours pas là. Eh bien, écoutez, un petit peu d'autre chose pendant qu'on prépare le club des connoisseurs, non?
Alors, ici la tour de contrôle. En matière d'autre chose, j'ai la pub, si vous voulez.
Voilà, très bien.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova.
J'ai bien aimé vous voir faire vos trucs matinaux, là, François, là, le courrier, tout ça, le café, l'eau. C'est
oui, ben, vous savez, je suis comme tous les autres ministres, effectivement, je suis obligé de démarrer le boulot de bon matin.
Oui. Voilà. En découvrant des chèques, des lettres de vote de la SACD,
voilà,
en signant les semainiers.
En sortant de cette émission, je vais recevoir un certain nombre d'administrés, de citoyens qui ont des demandes à faire passer.
Et vous êtes plutôt conciliant sur les demandes ou
Non, je suis dur, je suis une saloperie.
Voilà.
C'est comme ça qu'on m'appelle d'ailleurs.
Voilà. Vous êtes déjà allé en Cannes ou pas?
Alors écoutez, c'est bien que vous parliez de Cannes, mon cher Atman, parce que je pense qu'une émission est forte quand elle est un peu dialectique, donc il faut du yin et du yang, du pour et du contre. Et moi, Cannes, c'est absolument tout ce que je déteste dans la vie. Pour voilà. Moi, c'est une ploutocratie qui prend des poses d'artistes, et c'est une chose absolument épouvantable, qui prend une place infernale chaque année dans nos vies. Déjà, Roland-Garros, j'ai du mal, mais Cannes, pour moi, c'est vraiment ce qui me fait dégueuler.
Il y a les trois, Cannes, Roland-Garros et le Tour de France.
Le Tour de France, c'est un truc vraiment populaire. Cannes, j'ai bien dit, une ploutocratie.
Alors, un autre avis, celui d'Edouard Baird.
Un autre avis, il a sa place aussi. Voilà.
Allô, Edouard.
Bonjour à tous, bien sûr, ça fait partie de la grandeur des choses, d'être commenté, haï, disputé, aimé. Et François, votre avis est fort, il est beau, il exprime bien sûr votre vision de Cannes, mais ça dit aussi beaucoup sur vous, bien sûr. Parce qu'une colère, c'est un sentiment, donc ça ramène à soi. Et vous me disiez, enfant, j'ai été battu par le Festival de Cannes qui venait me garder tous les samedis soirs quand papa-maman allait s'amuser chez d'autres amis.
Oui, s'amuser, le mot est faible.
Le mot est faible. Je suis effectivement en duplex dans le cadre de cette émission Plus près de toi. On se balade des caves jusqu'au grenier, vous savez, du monde. Mmh. Et là, il y a d'abord ce Festival de Cannes, c'est d'abord de mon point de vue, hein, des gens du monde entier qui ont une vision du monde, qu'ils ont traduite en images de cinéma, qui arrivent sous le bras avec avant leur bobine et maintenant des choses beaucoup plus électroniques. Et qui essayent d'attirer l'attention pour que ces films existent, pour que d'autres gens les voient. Des gens qui arrivent de Corée, des gens qui arrivent de Tchécoslovaquie, des gens qui n'ont pas le droit parfois de faire des films dans leur pays. Il y a des films iraniens qui arrivent, il y a parfois même des films français. C'est vous dire l'éventail de films qu'on voit ici à Cannes. Donc au début, il y a ça, des films qui sont ce qu'on appelle des films d'auteur. C'est-à-dire des films qui ne bénéficieraient pas de réseaux de distribution a priori fort, ni de marketing, ni de publicité. Et grâce à Cannes, qui est une sorte de... qui attire, qui est un aimant à caméra, parfois à vulgarité, à bling-bling, à clinquant, à mannequins sans culottes, à bijoux, à gens qui sautent sur les tables. Ça attire les médias, ça attire les caméras, ça attire les micros. Et tout à coup, entre deux commentaires sur la robe de tel ou tel mannequin, on parle un peu de cinéma et à travers le cinéma, on parle d'autres visions de la vie, d'autres pays, d'autres sentiments. Et tout à coup, ces films peuvent exister, sortir en salle et être vus par le maximum de personnes. Ça me touche beaucoup. Et puis à côté de ça, François, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des gens qui viennent voir, il y a des gens qui viennent voir si on les voit, il y a des gens qui viennent voir si on voit ce qu'on voit, il y a des gens qui viennent voir si personne n'a oublié de les voir, et puis il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui crient leur absence de mystère, il y a des gens qui montrent leur manque de fragilité et qui cherchent à se disloquer dans ce grand n'importe quoi.
Mais vous, Edouard, vous, dans quelle catégorie vous situez-vous, Edouard ?
Cher François Rollin, je suis un être humain, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts.
Il a bien parlé.
Je suis tenté par l'extrême vulgarité, par l'exigence la plus totale entre l'esthétique et la morale et me vautrais dans les fanges des dessous de Cannes. Je suis entre tout ça, je vois le pire et le meilleur et j'appartiens comme chacun de nous aux deux.
Magnifique.
Gros bisous à toute l'équipe à Paris.
Ne partez pas, Edouard. Hein.
Oui, ne partez pas, il y a un petit club des connoisseurs.
Il va se recoucher, lui, il est là, comme ça, il fait une grande tirade et puis il va se recoucher. Ça. Non, l'émission continue jusqu'à 9h, Edouard.
Maintenant que tu dis ça, je vais continuer à danser à poil dans ce petit établissement de travestis de la banlieue du Canet. Alors, on se retrouve tout de suite après pour le club des connoisseurs. Gros bisous.
7h, 9h. Plus près de toi.
L'émission que... De... Ouais. Oui, allô ?
Non, c'est un effet que je voulais tenter avec vous, Atman. Vous êtes en studio à Paris. Je suis dans une chambre d'hôtel avec les huissiers devant la porte à Cannes. Je voulais tenter ce que c'était que de parler tous les deux à la fois. Cet effet qui est très souvent oublié maintenant par les médias, qui sont trop verrouillés, qui sont trop sages et trop propres. Il est très rare aujourd'hui à la télévision, à la radio, qu'on entende deux mecs qui commencent leur phrase à la fois.
Vous avez raison, Edouard. Oui. Et ils font tout ça sous le prétexte de « on ne se comprend plus, on ne s'entend plus si vous parlez tous à la fois ». Et alors, j'ai envie de dire.
Alors que pas du tout. D'abord, et alors, quel serait le problème, effectivement, François, si on ne s'entendait plus ? Et ensuite, c'est faux, parce que moi, j'ai très bien compris l'auditeur aussi, quand Atman a fait...
C'était un dialecte. C'est comme... Mais est-ce que vous allez libérer la chambre avant midi, là, Edouard ?
Écoutez, d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est une chambre ?
Parce qu'il y a
à mon nom ? qui vous fait croire que je ne me suis pas verrouillé dedans en mettant des cales sous la porte, je vous trouve un tout petit peu trop dans l'intime ce matin.
Un peu curieux.
Qu'est-ce qui s'est passé autour de vous dans le club des connoisseurs? Quelles anecdotes avez-vous tirées?
Déjà une parité, hein, exemplaire dans le studio. Deux femmes, deux hommes.
Rare.
Voilà. Oh, la petite mieux pique. Que chez Macron, il y a deux femmes magnifiques, deux hommes magnifiques, voilà déjà.
Alors la spécialité du club de connoisseurs, c'est d'aller chercher dans les pages qu'on ne voit même plus voir quand on lit le journal. On s'arrête souvent à la page 12, vous allez à la page 34. C'est pareil, à la fin du journal, très souvent, il reste météo, sport. Quel temps fait-il sur un match de foot? Et c'est là où nous, ça nous intéresse.
Voilà, eh bien, on va commencer avec ce club des connoisseurs par Marie Michet, non?
On est page 13, Edouard. Page 13 du Monde qui fait une petite enquête sur une plateforme d'Amazon qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. En gros, c'est une plateforme pour donner des petits boulots à des gens qui font toutes les bases œuvres d'Internet, donc qui taguent les vidéos et le pire du pire, qui modère absolument tout Internet. Alors, on pense que c'est des machines, mais très souvent, c'est des gens qui le vivent très, très mal. D'ailleurs, il y avait un article dans l'Huma, il n'y a pas longtemps, pour parler de la désespérance de ces gens qui modèrent sur Internet parce qu'ils sont confrontés à toute la laideur du monde, en fait. Et là, il y a donc cet article sur cette plateforme de Amazon qui permet à plein de gens de travailler, mais qui permet à plein de gens de travailler pour que dalle. Par exemple, il y a une femme qui raconte qu'elle travaille 8 heures par jour pendant une semaine. Et bien, elle se gagne $100 pour 8 heures par jour pendant une semaine. Ça fait $300 par mois. Il y en a une autre qui raconte que la première semaine, elle s'est fait $1. La deuxième, elle en a $60 par semaine. Ça fait quelques mois qu'elle travaille. Et puis, pire encore, bah les 50% des gens qui travaillent sur cette plateforme, ils ont un bac plus 3, déjà, que ce soit en Inde ou aux États-Unis. Alors après, il y a toujours un yang dans le yin d'Internet, il y a toujours un bon dans le mauvais. C'est que il y a aussi une femme qui raconte, elle s'appelle Marie Mento, qui a une formidable communauté d'entraide autour de ces trucs-là et qu'elle adore les gens sur les forums et qu'il y a plein de choses qui se sont développées pour de la solidarité. On échange nos numéros de téléphone, nos histoires, le nom de nos conjoints. À Noël, on s'est même offert des cadeaux.
Alors Marie Michet, un modérateur, on voit, on sait bien que de temps en temps, il est intervenu un modérateur, mais est-ce que c'est la personne, par exemple, qui quand il y a un poste qui est « espèce d'enculé, on va te faire la pause », c'est la personne qui dit « vous y allez un petit peu fort, là ?»
Alors, elle ne dit rien du tout, elle supprime le message, mais elle voit des choses bien pires que ça. C'est les gens qui s'occupent de la pédopornographie, de tous ces trucs-là.
Alors là, le mot modérateur est peut-être un peu trop modéré. Là.
Peut-être bien.
Comme pour l'alcool, avec modération. Marie Bonisseau.
Ouais, non, là, c'est carrément des censeurs. Oui, moi, je suis allée page 11 dans le...
Censeurs sur la pédopornographie.
Bah non, mais ils suppriment.
On va censurer
la pédopornographie. Non, moi, je suis allée page 11 du cahier Paris du Parisien. Donc, on est vraiment dans l'ultra local. On est dans le Paris Nord-Est. Je ne sais pas si vous regardez les affiches de la campagne législative là qui a commencé. Ça y est, il y a toujours plein d'affiches marrantes. Et en fait, il y a l'affaire de la jupe là chez Europe Écologie Les Verts. Il y a une affiche dans la 17e circonscription qui était donc avec la candidate officielle et son suppléant qui est en fait Thierry Schaffhauser et qui est un militant de la cause LGBTI, donc qui est en fait un travesti. Et qui posait habillée en femme sur l'affiche, affiche qu'il avait publiée sur Twitter avant qu'elle ne soit imprimée, et en fait qui s'est fait directement effacer. Il est plus maintenant suppléant de cette candidate parce qu'il s'était mis en femme sur cette affiche.
Son affiche, elle l'a fait virer en fait.
Voilà, en fait.
Mais il avait déjà proposé sur Twitter.
Il avait posé avec la candidate. Donc, la photo avait été faite en connaissance de cause avec un photographe, et en fait au dernier moment, elle fait ouh, c'est peut-être un petit peu trop dangereux. Et cette personne, Thierry, apparaît habillé en femme sur une autre affiche d'autres candidats d'Europe Écologie Les Verts. Donc on se dit, bon, c'est bon, il y a un progrès, il y a un retour. Cette fois, en porte-parole de cette circonscription. Mais là, on lit dans le Parisien que, attention, ça ne veut pas dire que c'est le visuel officiel de campagne. Voilà, c'est juste une affiche pour montrer qu'on est sympa avec les travestis, mais ça va toujours pas être l'affiche officielle d'Europe Écologie Les Verts. Donc je trouve ça génial, cette petite gêne de « on va prendre quelqu'un qui milite pour la cause des transsexuels, mais on va quand même pas trop le mettre sur les affiches. »
Censure. Un commentaire, François? Oui.
Une information aussi, alors, mais qui n'est pas en dernière page du journal, mais même au-delà de la dernière page, puisqu'elle n'est pas encore dans les journaux.
Ah.
Parce qu'hier, j'ai passé la soirée avec Laurent Deutsch.
Ah.
Et... je dois vous informer, tant pis, je dis le truc cash, il n'est pas très sushi.
Ah,
merde. Hein, il y avait des sushis, il n'est pas très sushi.
Mais moi, j'ai travaillé avec lui, je crois qu'il est allergique à un certain poisson.
Je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques sordides.
Oui.
Je vous dis les faits bruts, Oui. Et ça n'enlève rien au talent du personnage, oui. Ça n'enlève rien à son appétit devant un cassoulet ou un plat à la française, pardon d'être un peu vieux jeu. En tout cas, il n'est pas très sushi.
Vous prenez le risque de dire ça. En général, ou c'est le sushi particulièrement ?
Parce qu'il peut être brochette au fromage.
C'est un type qui a quand même pas mal d'aura. Alors, j'ai hésité à lui poser la question.
Là, vous prenez un risque en disant cette information-là.
Je sais.
C'est un petit peu de délation. Vous dites que Laurent Dutch...
Ça apporte un relief au personnage.
François Rollin, là, on essaie un petit peu de digérer comme cette information que vous venez de nous donner à 7h22 sur le comédien Laurent Deutsch. Donc, on n'est pas encore dans le domaine de la délation, on est dans l'intime, on essaie quelles leçons on peut en tirer. Déjà, on peut savoir, François, si vous mettez Laurent Deutsch face, par exemple, à du riz vinaigré et du poisson cru, il resterait de marbre, d'après vous?
Oui, c'est ça. Ou en tout cas, il affecterait d'être de marbre. Il prendrait la posture de celui qui n'a pas vu ce qui est en train de se chiracher devant lui.
Mais il faut aller voir. Il aime la charcuterie, alors?
Non, ça, je ne sais pas.
Mais
il aime ou il n'aime pas la charcuterie, j'en sais rien.
Et s'il n'aime pas les sushis, c'est qu'il aime la viande.
Moi, écoutez, j'ai l'esprit d'un reporter. Je suis hier devant une personne.
Non, il faut que ça se calme.
Vous dites qu'il n'aime pas les sushis. Vous avez votre parole, je vous dis qu'il aime. Oui.
Bon, allez, envoyez la musique, c'est trop tendu.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
François?
Oui, Earthman.
Je vous verrai pas avant ce week-end, c'est la fête des mères, là, bientôt?
La fête des mamans, oui.
Oui, la fête des mamans, alors? Vous allez faire quoi pour la fête des mamans?
Moi, la mienne est décédée, donc elle va accueillir moins... disons, moins joyeusement, toutes espèces de cartes de bonne fête que je pourrais lui envoyer. Mais il y a d'autres mamans, j'en suis conscient.
Oui, il y a d'autres mamans. Mais...
Et par exemple, la vôtre
aussi, elle est décédée.
je vous remercie pour ce bel échange qui était là, Atmen et François. Je rappelle que François Rollin, vous êtes l'auteur de cette phrase, c'est vous qui avez transmis cette nouvelle, sur le fait que le comédien Laurent Deutsch n'était pas fan de sushi.
Ouais, j'ai dit, il n'est pas très sushi.
Non. Ah oui, mais c'est trop tard. Moi, j'ai cru vraiment que c'est quelqu'un qui s'opposait violemment au sushi.
Ah oui,
je vous rappelle que je suis ici au Festival de Cannes, où les ragots sur les acteurs, c'est évidemment, tout le monde s'en empare, c'est transformé, c'est amplifié, c'est pain béni. Et après, forcément, les carrières en pâtissent. Vous imaginez bien que si un grand réalisateur japonais voulait embaucher Laurent Deutsch, le mec est un peu vénère, quoi.
Bon, enfin bref, j'ai fait une boulette, alors. C'est ce qu'on appelle, en termes radiophoniques.
Il y a une petite... Il y a une couille dans le pâté, comme on dit chez les octogénaires, mais on va s'en tirer. Oui. Grâce au journal...
Journal de Thierry Parrette.
Les autorités de New York ont décidé de renforcer les mesures de sécurité sur plusieurs sites qualifiés de sensibles. C'est une réaction à l'attentat de Manchester en Angleterre. Alors vous vous réveillez peut-être en ce moment et vous l'apprenez peut-être. Une explosion a donc secoué la Manchester Arena hier soir vers 22h30, 23h30 heure française. Le bilan, il est très lourd puisqu'il fait état de 19 morts pour une cinquantaine de blessés. C'est un bilan qui risque hélas de s'alourdir compte tenu du nombre important de blessés graves. L'explosion, elle s'est produite à la fin d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans le hall d'une des principale entrée ou, en l'occurrence, sortie de cette salle. C'est l'une des plus grosses salles d'Europe de spectacle. La chanteuse, elle s'est dite brisée. Elle a pris la décision logique d'interrompre sa tournée européenne. Comme en France, la Grande-Bretagne s'apprête à voter le mois prochain pour des élections législatives et la campagne de ces législatives a, elle aussi, été suspendue. Le gouvernement britannique doit se réunir ce matin en urgence pour évaluer la situation. Le dernier attentat de cette ampleur en Angleterre remonte à juillet 2005. C'était à Londres. À l'époque, il y avait eu 56 personnes qui avaient été tuées. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron va recevoir les principaux syndicats professionnels et organisations patronales aujourd'hui à l'Élysée. Au programme des discussions, le délicat sujet de la réforme du Code du travail. L'exercice s'annonce éminemment explosif au vu de la méthode d'application de cette réforme, puisque pour aller plus vite, Emmanuel Macron a annoncé pendant sa campagne présidentielle qu'il légiférait par ordonnance. Le MEDEF espère que l'exécutif disposera d'une majorité après les législatives pour faire passer justement ces ordonnances à l'Assemblée. Une méthode que la CGT juge irrecevable. La centrale syndicale affirme qu'assouplir le code du travail ne permet pas de lutter contre le chômage. Donald Trump est en Israël depuis hier. Au premier jour de sa visite hier, le président américain s'en est vivement pris à l'Iran. comme il l'avait fait la veille hein, lors de son déplacement en Arabie Saoudite. Selon Donald Trump, il y a bien une convergence d'intérêts entre les pays arabes et Israël face à la République islamique. 100 000 fonctionnaires voués à l'anéantissement professionnel en Turquie, ce n'est pas moi qui le dis, mais Amnesty International, dans le cadre de la purge qui a suivi le coup d'État manqué en juillet de l'année dernière. Médecins, policiers, enseignants, universitaires, soldats, autant de personnes bannies de la fonction publique, soudainement qualifiées de terroristes du jour au lendemain et luttant désormais pour joindre les deux bouts. L'ex-présidente sud-coréenne Park Jong-hi a comparu hier devant un tribunal de Séoul à l'ouverture de son procès pour corruption dans la retentissante affaire qui a précipité sa destitution. Et puis la réforme des rythmes scolaires, elle aura fait long feu à Marseille. La ville n'attend plus que la publication du décret d'application donnant le choix aux communes de renoncer ou non à cette réforme pour tout arrêter. Alors concrètement, Marseille reviendrait donc à la semaine de 4 jours à l'école. Et la ville, elle compte 444 établissements scolaires.
Merci, merci Thierry Paret. On s'est tous réveillés ce matin avec eux. Avec ces nouvelles, cet attentat terrible à Manchester. Et alors, il y a toujours un moment où on hésite un peu, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une émission. Est-ce qu'on est obligé d'être joyeux et d'être gay? Est-ce que c'est indécent? Est-ce que c'est faire offense à des gens qui souffrent et qui sont morts? Et puis non, on est dans l'humeur dans laquelle on est tout en étant en fraternité autant qu'on peut avec le reste du monde. On est tout de suite dans les rues avec Jacques Souvent.
Monsieur,
Jacques,
bonjour. Oui, bonjour Edouard.
Jacques, vous dites monsieur bonjour. Est-ce que de votre part, c'est une façon d'aller vers autrui?
Bah, tout à fait. Là, je suis un carrefour absolument
C'est un carrefour de votre carrière, mon vieux, je peux vous dire.
Suivant le mec, vous allez me passer. Bon, alors c'est chaud, je pense que je vais poser la bonne question. Bonjour madame, vous en pensez quoi, vous? Bah, de ce que vous voulez.
Je vais travailler.
Voilà, c'était la bonne question, ça va? Monsieur, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, vous?
Je ne pense rien.
Il ne pense rien, il ne pense rien, lui. Madame, bonjour.
Mais rien, c'est déjà
quoi, alors? Vous en pensez quoi? Monsieur, vous en pensez quoi, alors?
À dire le vrai?
Rien. Rien du tout?
Absolument rien.
Si on cherche un peu plus loin?
Alors, si on cherche un peu plus loin, ça peut mener beaucoup plus loin.
Tout à fait. Alors, on y va ou on n'y va pas?
Ah, je sais pas. À vous de dire.
C'est vous qui décidez.
C'est moi qui décide?
Ah oui, si c'est pas ici, c'est ailleurs.
Et si on y va pour maintenant, on peut y aller plus tard?
Bah oui, mais là on est en direct, donc ça va falloir y aller maintenant.
Ah oui, ça va être un peu compliqué. Bah moi j'y vais de ce côté-ci. D'accord. Vous venez avec moi?
À votre droite?
À ma gauche.
Et vous venez à la mienne?
C'est pour mon chemin.
Bah, à bientôt.
Bravo Jack,
j'adore,
Souvent.
J'adore.
Vous en êtes...
des trucs. Il y en a qui pensent pas, il y en a qui sont pas payés assez cher pour penser. Enfin, il y a des tas de réponses assez intéressantes, là.
Cher Jack, souvent, vous êtes une sorte de funambule des rues de Paris, un fil de feriste du hasard, un circassien du matin. Je vous vois osciller tous les jours entre sublime et tragédie, entre catastrophe et gloire, entre palme d'or et chassé du festival à coups de pied au cul. Je sens tous ces gens qui vous tendaient votre micro, qui aimeraient certains l'aveler, certains vous le carrer dans une partie de votre anatomie que je ne citerai pas. Vous êtes toujours magnifique, héroïque. Vous êtes une sorte de mannequin de l'âme. Hein. On pourrait faire des photos de votre âme.
Un mannequin de l'âme.
Votre âme pourrait porter des grandes marques ici. Ça serait très beau.
À tout à l'heure. En tout cas, funambule, je confirme.
Salut mon champion. À tout à l'heure.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
C'est 7h-9h plus près de toi.
To be, what a game to be. C'est moi qui fais toutes les musiques qui sont là. Je les fais sur mon petit clavier. Marie Bonisseau, bonjour.
Bonjour.
Marie, vous nous faites la gentillesse, certains matins, de passer nous voir. Et aujourd'hui, je crois que vous nous avez préparé un sujet toute tendresse, toute chaleur, toute détente,
ouais,
toute prémisse de l'été.
Voilà, exactement. J'ai décidé qu'on n'était pas vraiment le matin et qu'on allait parler d'apéritif. Parce que ça n'a peut-être pas échappé aux Parisiens. Ground Control est de retour à côté de la gare de Lyon. Alors, Ground Control, c'est quoi? C'est une immense terrasse, une encore plus
Vous
immense...
vous adressez aux Parisiens, là, Marie Bonisseau?
Ben
nous, on s'en va.
Aux Franciliens.
Nous qui ne sommes pas dans la région, moi, je suis en PACA. Attends, vous êtes dans cet entre-soi,
Mais vous nous parlez de Cannes, et moi, ça m'intéresse.
Soyez international, dépassez-moi tout ça.
Ground Control. Voilà, je l'ai dit avec un accent international. Du coup, donc le concept, c'est une très très grande terrasse, une encore plus immense halle, la halle Charolais, qui est une friche de la SNCF. et qui est donc transformé pour l'été en lieu de fête et de food truck. Concrètement, ça veut dire que dans les burgers, vous n'allez pas trouver du steak, mais du soja. Dans les sandwichs, pas du jambon blanc, mais de la porchetta. Et dans les verres, c'est pas de la Stella, c'est je sais jamais la marque. On a bien évidemment le droit de prendre des photos de tout ça. Vous n'aurez pas besoin de mettre un filtre Instagram, puisque le lieu a déjà la bonne colorimétrie. Hein. On est sur un mélange de gris béton, de métal rouillé, hashtag Indus. Bref, je ne prends pas trop de risques si je vous dis que c'est le spot de l'été. Il suffit de regarder les chiffres. C'est pour la 4e année de suite que la SNCF prête ses vieux trains pour faire la fête. En 2014, c'était dans le 13e arrondissement. Et puis en 2015-2016, c'était dans le 18e vers la Chapelle. Énorme succès. 350 000 personnes sont venues faire la fête sur des rails abandonnés. La friche, c'est chic, titre Le Parisien. Et ça, la SNCF l'a très bien compris, car j'ai trouvé un article passionnant publié hier dans Slate qui raconte en fait comment on est passé de la friche subie par les autorités à la friche provoquée par les promoteurs immobiliers, en l'occurrence la SNCF, qui est le deuxième plus grand propriétaire de France après l'armée. La SNCF qui a donc lancé il y a 2 ans un grand appel à projets pour des sites artistiques temporaires. En tout, une vingtaine de projets ont été retenus. Et l'idée, c'est que cette fête éphémère qui attire des populations créatives, éduquées, branchées, qui ont les moyens de se payer un burger sans frites à 12 euros, cette fête-là permet d'apporter de la valeur, ne serait-ce que symbolique, à un patrimoine immobilier longtemps délaissé. Comme le dit lui-même Guillaume Pépi, le président de la SNCF, il y a 10 ans, on aurait juste rasé cet endroit. Aujourd'hui, on a conscience que ces lieux peuvent avoir une utilité provisoire, car tous ces lieux, la Chapelle, Gare de Lyon et beaucoup d'autres, tous ces rails à l'abandon, sont destinés en fait, dans le futur, à des gros projets de rénovation urbaine qui provoquent forcément l'inquiétude des habitants. Par exemple, à Gare de Lyon, d'ici 2025, on veut construire des logements, 600 logements, 45 000 m² de bureaux, une école, une crèche, des commerces, etc. Un énorme chamboulement que les fêtards, en fait, de cet été permettent de tester. Les hipsters sont des cobayes volontaires, peut-on lire dans Slate. Et toujours dixit la SNCF. On arrive beaucoup mieux à convaincre les habitants avec ce genre de fête qu'avec une réunion publique. En fait, la ville aujourd'hui se doit d'être cool avant d'être construite. Un exemple intéressant, c'est les frigos, par exemple, qui étaient une énorme friche dans le 13e arrondissement, oui, dans le quartier de la BNF. Les frigos squattent d'artistes qui ont longtemps emmerdé les promoteurs, mais qui sont maintenant cités dans les prospectus de ces mêmes promoteurs. Alors voilà, tout ça, ça m'a foutu un petit coup au moral, un petit coup à la friche. Peut-être que pour être vraiment underground cet été, il faut fuir cet underground standardisé. Il faut aller boire des coups, qui sait, dans un pub à la Défense, à l'ombre de la Tour SFR, ou même mieux, à un pot de départ d'un employé SFR, on y trouvera au moins de la vraie Stella.
Merci Marie Bonisseau. François Rollin, vous qui êtes président du Centre d'Observatoire des médias radiophoniques, avez-vous eu l'impression que Marie Bonisseau, dans cet article, a su dépasser les pièges du parisianisme pour atteindre une sorte d'universalité ?
Ah oui, et je pense qu'elle les a d'autant mieux dépassées qu'elle est partie de loin. Comme les grands athlètes. C'est-à-dire, j'ai vu un Usain Bolt qui, dans les premiers mètres, se donne l'air nonchalant de celui qui ne pense pas à la victoire. Et puis ensuite, une fois que ça a commencé à chauffer, j'ai vu les muscles saillants de Marie qui commençaient à produire leur effort. Et là, au milieu, j'étais moi-même les yeux écarquillés devant tant de talent, devant tant de cosmopolitesse.
Avec,
c'est ça.
Avec une belle envie, une belle énergie, un beau désir peut-être de se dépasser. Et puis je crois que Marie a su aussi faire vivre les interlignes, aussi la ponctuation et tout l'imaginaire, tout le visuel qu'il y a derrière les mots.
Oui, elle était à la fois sur les rails, puisqu'on parlait de friche SNCF, et en travers des rails, un petit peu comme celle que Zorro viendra bientôt sauver, s'il arrive.
Zorro, bien sûr, qui est toujours pourchassé par le sergent Garcia, hein, je rappelle qu'il est ce gros monsieur moustachu, oui, qui, me semble-t-il, a consacré sa vie à l'arrestation de Zorro, tâche à laquelle il ne parviendra pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire au sergent Garcia de laisser tomber et de passer à autre chose ?
C'est-à-dire, en réalité, cette histoire d'arrestation n'est qu'un prétexte, bien sûr. Moi, j'en parlais avec Zorro, qui dînait avec moi et Laurent, oui, Deutsch hier soir.
Pardon de vous interrompre, vous parlez de Zorro sous l'intitulé Zorro ou quand il est encore Don Diego de la Vega?
Non, sous l'intitulé Zorro, parce que nous, voilà, on est très détendu, de toute façon, ouais, on sait qui il est, on est affranchi, on n'a pas à se cacher, oui, donc il était là, et il me disait, au fond, le sergent fait mine de vouloir m'arrêter, mais en réalité, c'est une espèce de second papa. Alors, devant les yeux ahuris de Laurent Deutsch, il a dit, mais enfin, mon pauvre Laurent, vous n'aviez pas compris cette espèce de parabole? Vous n'aviez pas compris le symbole? Alors, le petit Laurent Deutsch, il n'emmenait pas l'argent.
Et devant des sushis, tout ça. Oui. Mais moi, j'étais avec Bernardo hier soir à dîner.
C'est un peu moins parce que je dis rien, moi.
Beaucoup moins vivante. La conversation était...
C'était la pantomime.
C'était complètement autre chose. Je vous propose ce que vous préférez tous de la pub.
Vous avez une belle fenêtre petite
pour nous envoyer de la bagnole.
On veut de la bagnole, de la Inès, de la fraîcheur.
Ça marche, le truc de du duplex, là, Mène et François, vous avez l'impression que je suis où, là?
Dans le placard, à côté. C'est une supercherie canne, en fait. Non, la voix est très bonne, vous êtes à côté.
Tout à fait.
C'est bon pour la pub, si vous voulez.
Mène de la pub.
On suis fan, à tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Moi, j'ai pas pu parler tout à l'heure dans le club des connoisseurs d'une info qui me tient à cœur. C'est qu'à Toulouse, on a libéré des lapins qui étaient dans qui allaient servir pour des expériences, et puis on les a libérés. Et je trouve ça pas mal. Voilà.
La dernière fois qu'on a libéré des lapins, c'était chez le docteur de Lille, et puis ça a été la myxomatose.
Ah oui, peut-être. Il y a une chose pour un bien et un mal pour un mal. Voilà.
Enfin, on est tous vachement pour les lapins.
Oui, aussi.
Alia, tu es pour les lapins, toi?
Oui.
Alia, c'est la jeune fille, la petite fille qui est venue nous dire un poème ce matin. Et toi, t'aimes bien les lapins?
Oui.
C'est gentil, les lapins.
Oui, c'est mignon, un lapin.
Oui, c'est très mignon.
C'est mignon un lapin, et Alia aussi, elle a quelque chose de mignon et de très particulier, c'est qu'elle a deux longues nattes brunes. Et alors, quand on dit des nattes, souvent on pense à des nattes blondes, alors on se voit déjà en Bavière à boire des bières. Et là, elle a deux longues nattes brunes, et il y a un charme particulier. Je voulais faire partager ça à nos auditeurs qui n'ont pas l'image.
Qui n'ont pas l'image, voilà. Alors Alia, tu es avec nous?
Oui.
Tes parents ont la chance d'être là aussi, voilà. Et tu voulais parler d'eux parce qu'il y a la fête des mères. Moi, j'aime bien mettre une couche sur la fête des mères là, toute la semaine, c'est important. Tu vas faire un cadeau ou pas?
Oui, je vais faire un cadeau.
On le dit ou pas?
C'est un secret, normalement, non?
Non, il ne faut pas le dire. On le garde pour nous. Voilà. Donc, tu vas aller à l'école après, mais avant, tu vas nous dire un petit poème?
Oui.
Alors, pour ça, tu sais, il y a un générique.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Comme un oiseau bleu, porteur de grains multicolores, dans un jour qui se meurt, je marche, la parole haute, dans une forêt de lianes, sur une toile d'araignée. Poème est mon nom d'initiation, espoir, mon code, passeur d'étoiles.
Est-ce que je voudrais demander un privilège? Est-ce que tu peux le redire? Et puis moi, je, après chaque phrase, je la dis en écho, comme ça on le dit à deux.
D'accord.
Allez, super. Comme un oiseau bleu.
Porteur de grains multicolores.
Porteur de grains multicolores.
Dans un jour qui se meurt.
Dans un jour qui se meurt.
Je marche la parole haute.
Je marche la parole haute.
Dans une forêt de lianes.
Dans une forêt de lianes.
Sur une toile d'araignée.
Sur une toile d'araignée.
Poème est mon nom d'initiation.
Poème est mon nom d'initiation.
Espoir, mon code, passeur d'étoiles.
Espoir, mon code, passeur d'étoiles.
Magnifique. Depuis Enrico et son fils qui chantaient de « Ouvrons la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde ».
Oh, il va y avoir de la moquerie.
Je n'ai pas vu j'ai trouvé ça, un accompagnement, voilà. Un tutorat vocal magnifique. Ça
on n'a pas cité l'auteur peut-être?
Oui, l'auteur.
Daniela Boni.
C'est une femme, donc.
Je pense qu'elle s'est reconnue ce matin, si elle s'est entendue. Un poème dit par François Rollin et Alia, c'est ça?
Oui.
On te laisse partir à l'école ou tu veux dire quelque chose de plus?
Ça va.
Non, tu as un animal ou pas? On a parlé de lapin.
Non, j'ai pas d'animal.
T'en veux un?
Oui.
Que fait papa, maman? Un chat, un chien, alors?
Un chien.
Un chien? Pourquoi un chien? C'est qu'un chien, il faut le promener. Hein.
Oui.
Il faut le promener, il faut le mettre à la campagne, il faut le brosser, il faut s'en occuper, hein. C'est pas juste une poupée, on l'a, puis on la jette. Un chien, c'est un chien.
Oui.
Bon, ben on va réfléchir. Hein. François, une dernière phrase.
Sur chaque fleur que j'ai cueillie, ma bouche un instant s'est posée. Ainsi, pour ma maman jolie, j'ai cueilli un bouquet de baisers.
C'est pour
la fête de votre maman, Ahmed.
Qui n'est plus là.
Et ben,
maman.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Il est 8h, le journal de Thierry Paret.
Une épouvantable attaque terroriste, c'est ainsi que Theresa May, la première ministre britannique, a commenté dans une première réaction l'attaque de Manchester. Une explosion a secoué la Manchester Arena, une des plus grosses salles de spectacle européennes où se produisait l'artiste américaine Ariana Grande, qui a mis un terme, enfin qui a suspendu sa tournée européenne du coup. Il était 22h30, 23h30 en France lorsque la déflagration a retenti à l'une des principales entrées de cette Manchester Arena, à l'un des pires moments hein, puisque le concert se terminait, donc les spectateurs, essentiellement des adolescents, étaient en train de rejoindre les sorties de la salle. Le bilan, qui risque de s'alourdir compte tenu du nombre de blessés graves, fait état ce matin d'au moins 19 morts pour une cinquantaine de blessés. Comme en France, la Grande-Bretagne s'apprête à voter le mois prochain pour des élections législatives. Theresa May, la première ministre, a annoncé qu'elle suspendait la campagne de son parti. Même chose pour son adversaire travailliste, Jeremy Corbyn. Et puis le gouvernement britannique doit se réunir ce matin pour évaluer la situation. Le dernier attentat de cette ampleur en Angleterre, il remonte à juillet 2005 à Londres. 56 personnes avaient été tuées. Il y a eu depuis cette date, 6 attentats en Grande-Bretagne. Et puis les autorités de New York ont décidé de renforcer les mesures de sécurité sur plusieurs sites qualifiés de sensibles. C'est une réaction à cet attentat de Manchester en Angleterre. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron qui va recevoir les principaux syndicats professionnels et les organisations patronales aujourd'hui à l'Elysée. À partir de 9h ce matin, ça va démarrer avec la CFDT. Au programme des discussions, le délicat sujet de la réforme du Code du travail. L'exercice s'annonce éminemment explosif au vu de la méthode d'application de cette réforme. Puisque pour aller vite, Emmanuel Macron a déjà annoncé hein, pendant la campagne présidentielle qu'il légiférerait par ordonnance. Alors le MEDEF lui espère que l'exécutif disposera d'une majorité après ces législatives pour faire passer justement ces ordonnances à l'Assemblée. En revanche, la CGT parle de méthode irrecevable. La centrale syndicale affirme par ailleurs qu'assouplir le code du travail ne permet pas de lutter contre le chômage. Donald Trump est arrivé en Israël hier. Au premier jour de sa visite, le président américain s'en est vivement pris à l'Iran, comme il l'avait fait en fait ce week-end lors de son déplacement en Arabie Saoudite. Selon Donald Trump, il y a convergence à travailler ensemble entre Israël et les pays arabes. L'ex-présidente sud-coréenne Park Jong-hee a comparu hier devant un tribunal de Séoul à l'ouverture de son procès pour corruption dans la retentissante affaire qui a précipité sa destitution. Les manifestations sont quotidiennes au Venezuela contre le président Nicolas Maduro. L'opposition réclame des élections anticipées. Il y a quasiment quotidiennement des morts dans ces manifestations. 3 nouveaux manifestants ont été tués et ont donc rejoint le rang des victimes. Et puis, on va parler de Marseille pour terminer, de la réforme des rythmes scolaires qu'aura fait long feu à Marseille, puisque la ville n'attend que la publication du décret d'application donnant le choix aux communes de renoncer ou non à cette réforme pour tout arrêter. Concrètement, Marseille reviendrait donc à la semaine de 4 jours à l'école et la ville compte 444 écoles. Un dernier mot quand même pour vous dire que Antoine Griezmann pourrait bien quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre Manchester. C'est pas sûr, mais il dit qu'il y a 6 chances sur 10. Donc voilà.
Oui, et Zidane aussi. Zidane qui a fait quand même qui a gagné là.
Mais c'était hier ça.
Oui, mais
c'est bien. T'es en retard,
oui, mais je veux qu'on remette une couche sur Zidane, Marseille, Zidane, la France qui gagne, la France qu'on aime, quoi, non?
Si, si, sans doute.
Jacques, souvent dans la rue.
Oui. Allô? Vous m'entendez?
Oui. Oui.
Jacques, on est avec vous.
Je suis avec Sassan, qui est un kiosquier à Place de la Nation, qui vient d'Iran et qui a fait les Beaux-Arts en Iran. Et on était en train de parler de poésie iranienne, de littérature persane. On était sur Hafez, Saadi, Omar Khayyam. C'est ça qu'on dit ?
Rumi, il n'y a pas un Rumi, un grand poète iranien qui s'appellerait ?
Oui, c'est un Rumi en Iran. Bravo, il s'appelle Molavi. Ouais.
Et vous
Bonjour,
étiez en train
monsieur.
De. Je cherchais à entendre un peu de perse. Vous connaissez plein de poèmes perses, ça sonne ?
Oui, je connais. Je connais, c'est pas pasteur.
Un premier vers, allez, au moins. Enfin, vers. Peut-on parler de vers, mais au moins une première. Une entame, l'ouverture d'un poème.
Persan.
Dans sa langue.
Il y a des bonnes traductions de la poésie. C'est quand même difficile à traduire entre le perse et le français, le français-perse.
Français-perse, nous avons un grand traducteur. Il est très, très, très grand.
Jacques, ouais, Jacques.
Il s'appelle Ahmad Chamlou.
Oui. Jacques.
Oui.
Monsieur peut dire du perse ?
Ben oui.
Il peut dire du perse, vous le certifiez.
Atmen, oui. C'est pas parce que vous parlez plus fort qu'on vous entendra dans un kiosque à Nation.
Ouais, non, mais si, parce qu'on a. C'est pas le même son chez vous.
Non, est-ce que femme, alors, vous êtes OK sur un.
Donc monsieur peut dire du perse. Voilà.
Oui, je peux, mais je suis en train. J'ai pas compris ce que j'ai
dit. Moi non plus, vous n'êtes pas le seul, monsieur.
Parce qu'il avait une poésie, mais en fait, il est en train de la rechercher sur son téléphone portable.
Je crois, François, qu'en fait, l'Iran, c'est un petit peu comme Naples. Ce sont des endroits où la poésie est une forme littéraire qui est beaucoup plus courante et beaucoup plus apprise et aimée qu'en France, non ?
Oui, d'ailleurs... Montesquieu, dans ses lettres persanes, nous a appris à aimer cette culture-là, qui était à l'époque moquée, fustigée, méprisée. Et effectivement, il y a toute une culture de la poésie qui n'a rien à envier au Japon.
Alors, il y a plusieurs approches, évidemment, liées à l'Iran de la part du monde occidental. Il y a la version trumpienne qui est allée tout de suite en Arabie Saoudite, acheter pour 110 milliards d'armements et ensuite dire à l'Iran, fais gaffe. Et puis, il y a l'idée de rendre hommage à la poésie persane, qui est une des plus grandes poésies du monde.
C'est parfait, on y est.
Alors on écoute un petit peu...
Excuse-moi Edouard, il y a un poème iranien qui est sur le fronton de l'ONU à New York, à l'entrée.
J'aime bien ces contours de tout et personne n'est capable de nous dire un mot en perse.
C'est ce que je dis. Donc...
Le début de la queue d'un verre, oui Atmen, vous l'avez dit, mais j'ai décidé de le redire.
Oui,
Est-ce que Safane a retrouvé
ses
vers ?
Oui, on y est. Alors Safane, c'est un poème de qui ?
Je préfère dire un poète sur le Pourouk Farrokhzade.
Donc c'est une poétesse femme. Hein.
C'est bien. Une femme qui est vraiment c'est extraordinaire.
Très bien, nous sommes toutes oui.
En fait, c'est perse, mais c'est pour traduire. Je sais que très 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 difficile, mais je vais mettre un petit peu. Je commence.
Allez-y, on attend ça. Nous sommes tout oui.
Alors, d'accord. همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنند به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان درازی است که هر روز زن با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله
Oh, très bien. Merci. Je vous ai interrompu juste. Alors, on l'a attendu longtemps, mais qu'est-ce que c'était beau.
C'est
hein.
Très beau.
Quelle belle voix, quelles belles intonations, quels beaux accents.
Quelle musique.
Il faut la personne. Normalement, c'est la langue, c'est chantant, tout ça. C'est-à-dire, c'est pas comme français, c'est une langue. C'est vraiment c'est très, très fort, mais il faut dire que c'est une langue. Par rapport à prononce, c'est articulation. Mais la langue perse, c'est comme chantant. Tous les mots, ils sont liés de l'autre. Après, c'est le premier. Voilà.
Alors, j'ai cru reconnaître.
Ça chante beaucoup. Hein,
ouais. J'ai cru reconnaître le mot mandarine, mais j'ai dû me tromper. Ah. Non
mandarine, vous l'avez dit plusieurs fois. Est-ce que c'est signifiant avec le fruit ?
Mandarine, non.
Vous êtes trompé, François.
Mandarine veut dire courgette en persan. Merci en tout cas pour ce moment.
Je vous en supplie. Voilà Edouard qui a replongé dans le potager.
En tout cas, vous savez, en 70 ans de carrière, j'en aurais entendu des grands moments de radio.
Oui.
Mais cette longue entrée en matière, ce poème dans une langue sans la traduction derrière, c'est-à-dire faire confiance entièrement dans la musicalité, dans le sonore. Je crois que ça nous a accompagnés ce matin. Moi, en tant qu'auditeur de Nova, j'ai été content, alors que j'étais en train de me doucher avec un café et ma brosse à dents dans le café, d'entendre ces mots en persan, d'imaginer ces mandarines, ces courgettes, François Rollin cherchant à décrypter, à écrire sur son petit papier avec le français persan pour les nuls, ce petit livre que je vous ai offert pour Noël. Vraiment, c'est le plus Nova. Je connais peu de matinales ce matin.
Oh bah, il y avait à plusieurs reprises dans ce poème une syllabe qui est courante dans votre bouche, c'était « or ».
Or, ouais.
Vous le dites souvent, ça, Edouard. Or.
Oui, mais c'est simplement en situation d'urgence que
oui.
Je sors.
Or.
Bon. Merci à tous. Merci, Jack. Vous passerez à l'économat à rendre votre crayon, votre blouson.
De toute façon, ça ne nécessite pas la traduction. Il faut s'imprégner de la musicalité et des sonorités. Sans traduction,
grosse bise. Grosse bise à tous et merci à monsieur sa femme. Salut.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Je suis donc en duplex, hein, ça ne veut pas dire que je suis un étage au-dessus, excellent jeu de mots, mais je suis en direct d'un autre lieu. Je suis dans une chambre d'hôtel du Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, il y a les grands films qui sont sélectionnés, il y a ce qu'on appelle les montées des marches, il y a des gens qui attendent des prix, et puis il y a beaucoup de gens différents qui viennent vendre leurs films, en parler, et là je suis avec les deux extrêmes du cinéma national. On est vraiment les deux couleurs les plus éloignées de l'arc-en-ciel, puisqu'il y a à la fois Stéphane de Freitas, le réalisateur de ce documentaire incroyable qui est devenu un film de cinéma qui s'appelle À voix haute. Bonjour Stéphane.
Bonjour Edouard.
Là, c'est pour montrer que je ne suis pas mytho. Et de l'autre côté complètement du champ du cinéma, il y a Lloyd Kaufman, le légendaire producteur des films Trauma, ce vieux studio indépendant américain. How many years, ça a combien de temps les films Trauma, Lloyd?
Trauma a commencé en 1865.
Ça s'est terminé quand?
When did it finish? La guerre civile aux États-Unis, il a terminé... avec Terraformer, avec Monsieur Edward Baer.
Alors j'ai joué il y a des années, comme ça j'ai fait une apparition. Comment on peut décrire les films Trauma? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des B-movies, ce sont des films d'action, ce sont des films... Est-ce qu'on peut résumer ce que c'est un film Trauma?
Je dirais qu'un film Trauma comme Toxic Avenger ou Return to Nukem High Volume 2, on mélange tous les genres. On a la comédie, le slapstick, le politique, le détective... Le film noir, tous dans une grande soupe, potage. Un potage des genres, Trauma.
C'est servi chaud, c'est servi froid, c'est servi avec du pain, avec son verre de vin. C'est servi comment, un film Trauma?
C'est servi avec peut-être médication, mais il faut pas s'en parler parce que j'ai pris beaucoup de LSD pendant les années 60 et il y a des enfants qui prennent leur petit déjeuner maintenant.
Oui, c'est possible. Alors les films Trauma, c'est absolument stupéfiant. Il y a il y a un des films qui a été classé dans les plus mauvais films de l'histoire du cinéma, c'est Surf Nazi Must Die. C'est une histoire, ce sont des revenants SS en surf qui attaquent une plage de nudistes. Hein, qui est devenu cultissime, Chef Nazi Must Die.
Oui, ce film est basé sur ma relation avec M. Edward Baer.
Alors, il faut savoir que Trauma, c'est légendaire à Cannes, puisqu'il y a des manifestations. You still do that, il y a toujours des gens dans les rues de Cannes avec des panneaux. Il y a tous les personnages. L'un des personnages récurrents, c'est Toxic Avenger, c'est le vengeur toxique qui a eu 4 films Trauma sur lui. C'est un homme qui était une sorte de nerd américain qui est tombé dans une cuve
d'acide,
de produits contaminés, et qui se venge sur les wasps américains, qui se venge sur les petits bourgeois américains trop propres sur eux.
Toxie, il a des éléments dans son corps qui le forcent de battre les éléments mauvais dans la société. Mais nous avons un nouveau film, bonne nouvelle.
Ah, nouveau film, présentation à Cannes du nouveau film de Trauma. Il était attendu depuis des centaines d'années. C'est Back to Return to Back à Nukem High. C'est quoi le titre exact?
À peu près, Return to Nukem High Volume 2. Et c'est un film dans deux parties. Le premier, volume 1, était présenté à Cannes il y a 3 ans. Maintenant, la deuxième moitié. Mais cette année, c'est très difficile à Cannes. Les policiers, les mitrailleuses, tous contre nous. Très difficile.
Alors, est-ce qu'il y a tous les ingrédients d'un film Trauma? Il y a des gens un peu découpés, il y a des dames avec plusieurs poitrines, il y a du rire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Return to Next Time? Je suis nul en anglais, j'essaie de le dire vite pour qu'on s'en aperçoive pas.
Return to Newcombe High, comme tous les films que Michael Hertz et moi nous avons tournés, s'occupe des thèmes très importants, politiques, sociaux, LGBTQ, c'est une histoire d'amour entre deux filles au lycée et aussi contre la mauvaise nourriture que les élèves et les étudiants aux États-Unis doivent manger. Et les étudiants qui chantent, le Glee Club, je ne connais pas le mot en français.
Il n'existe pas en français.
Ah, d'accord, mais il y a des gens qui sont très nerds, qui chantent, mais à cause des tacos Mexique, de la nourriture Mexique contaminée, ils sont changés en Cretan, très mauvais garçon. Les deux filles, les deux lesbiennes doivent sauver la ville de Tromaville et aussi fait beaucoup d'amour lesbienne.
On espère que, enfin en tout cas, on ne saurait mieux résumer un film. Lloyd, vous nous avez donné envie. Comment on trouve ces films en France? Comment on peut les voir, les films Troma?
Le meilleur, c'est d'aller sur le net. Puisque nous avons plus de 40 ans, Troma, 40 ans, on a mis tous nos films gratuits sur l'Internet. Troma Movies on YouTube.
Vous allez encore vous en foutre plein les fouilles avec ce système gratuit. Stéphane de Freitas, donc il y a eu à haute voix, c'était d'abord un documentaire à la télévision. Est-ce que c'était sûr que ça serait un film au cinéma après?
Non, pas du tout.
Je suis passé très vite d'un film à l'autre. Je vais faire une toute petite virgule musicale à la bouche pour ne pas trop traumatiser les gens. On est maintenant de retour avec Stéphane.
C'est pire.
Hein?
Non, c'est pire. Vous n'avez pas de transition, c'est mieux.
Voilà, pas de transition. Donc, oui, à voix haute alors, Stéphane. Est-ce que vous saviez que ça serait un film de cinéma déjà ou c'est tellement les gens ont aimé que vous êtes dit, allez, on fait une version cinéma?
Non, alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que suite à la diffusion de la version courte sur France 2, qui était, à la base, ça devait vraiment rester un film de télé, les bonnes audiences, le bon bouche à oreille, on va dire, l'opportunité de sortir le film au cinéma avec la rencontre de Stéphane Sellary aussi, qui dirige Mars Distribution, qui est venu me voir et enfin, on s'est rencontrés, on s'est dit est-ce qu'on pourrait en faire une version longue. Et là, effectivement, je l'avais déjà dans la poche puisque j'avais des centaines d'heures de rush. Ce film, à l'origine, il faisait presque 2 heures et qu'il avait fallu la raccourcir pour la version télé. Et quand Stéphane nous a ouvert la possibilité de faire ce défi, j'ai pu faire le rêve original et me rapprocher de cette version longue et d'avoir une version d'1h40. Voilà.
On va vous retrouver tout de suite après. Stéphane, il y a deux explications possibles à votre voix ce matin, à cette tranquillité. Soit, évidemment, vous êtes... levé très tôt, vous avez déjà fait votre gym, vous avez fait vos ablutions rituelles et vous avez mis des choses dans votre bouche, des boissons chaudes pour la préparer. Soit vous n'avez pas du tout dormi, vous avez fait ce qu'on appelle une nuit cannoise d'un jeune homme en pleine santé, en pleine agilité physique et mentale. Laquelle des deux?
La suite, juste après la pub.
La suite, on va retrouver Marie Missé et ensuite on viendra.
Et l'animal du mardi après.
L'animal du mardi, à tout de suite.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Mais j'avais pas compris que c'était tout de suite après.
Ben oui,
bon, ouais, je suis là. Bonjour Edouard.
Non, Edouard est...
Ah, il n'est pas là. Il est pas là.
Mais je suis là, on est là.
Bonjour,
avec François.
Bonjour Adbel, bonjour François, bonjour tout le monde. Ce matin dans la presse, c'est la rencontre d'Emmanuel Macron avec les différents syndicats en vue de la réforme du travail qui fait la une. On apprend dans Libé qu'en attendant, c'est le grand retour de l'état pompier, qu'une avalanche de dossiers brûlants, Arc International, William Sorin, Garbit, s'accumule sur le bureau d'Edouard Philippe et que l'État s'emploie pour l'instant à aller sauver ces entreprises en difficulté, à débloquer des fonds. Mais Libé raconte que l'histoire récente rappelle qu'une entreprise sauvée le temps d'une élection ne l'est jamais vraiment pour longtemps. À côté de l'état pompier, nous dit encore Libé, il y a les urgentistes du comité interministériel de restructuration industrielle. Ça s'appelle le CIRI. Il est caché dans les banals couloirs du ministère de l'économie et des finances. Un commando, je cite, qui vient en aide aux entreprises en détresse avec des négociations nocturnes et musclées. Libé nous fait vraiment rêver. Dans ce service, on a le privilège rare dans l'administration de pouvoir commander autant d'eau minérale qu'on veut. Les fenêtres sont allumées la nuit, mais les portes restent souvent fermées. Tout se joue d'ailleurs la nuit pour ces entreprises au bord de l'asphyxie. On sent que le journaliste hésite entre comparer ce service au Bureau des légendes ou à la série Urgence. Il finit par choisir Urgence, puisque l'article dit à la fin « Ces urgentistes peuvent faire sortir une entreprise d'une mauvaise passe ». mais pas la guérir d'une faiblesse chronique. Attention, transition des pompiers pour éteindre le feu, des urgentistes pour sauver les meubles, c'est ce dont la planète a besoin, hein, surtout au pôle. Dans Ouest France, on lit que la réserve mondiale de semences, qui est située sur l'archipel norvégien de Svalbard, et où on trouve 880 000 échantillons du patrimoine végétal mondial, qui est conservé ici pour des millénaires, eh bien, cette réserve mondiale est un petit peu en danger. Pourtant, on avait tout prévu. Le bunker devait résister à une chute d'astéroïdes, à une guerre nucléaire, à des inondations, mais le réchauffement climatique va trop vite, surtout en Arctique. En novembre, les températures ont souvent été de 20 degrés supérieures à la moyenne, rappelle Ouest France. La semaine dernière, il y a eu des fuites d'eau dans l'arche de Noé végétale, hein, une arche qui est pourtant pas censée prendre l'eau. Pour l'instant, rien de grave, mais l'avertissement résonne. À l'autre bout de la Terre, on projette de conserver des gros bouts de glaciers. Les chercheurs partent au plus pressé. Le Figaro nous raconte qu'on extrait en ce moment des carottes de glace des plus grands glaciers du monde avant que les neiges qui fondent à vue d'œil ne disparaissent définitivement. L'objectif, c'est de les entreposer donc en Antarctique sur le modèle du grenier de Svalbard. Alors pourquoi garder de gros glaçons ? Parce que les bulles d'air que contiennent ces carottes blanches renferment l'histoire climatique de la planète et que peut-être qu'on y trouvera des traces de la peste noire, et ça c'est excitant. Et puis on oublie que dans la fonte des glaces, il y a des victimes très directes. Dans Le Parisien, on nous raconte que l'aventurier Yann Bourgnon va traverser avec son bateau Malouloute le passage dangereux entre l'Alaska et le Groenland. Pour l'instant, il s'entraîne surtout avec le GIGN à tirer au fusil. Il n'a jamais chassé, mais dans la région, les ours blancs qui perdent chaque année de leur territoire, de leur maison et de leur nourriture deviennent agressifs, on le saurait à moins, et mangent parfois les explorateurs tout crus. Il y a les ours polaires et puis il y a les hommes. Dans Libé, on lit le portrait de l'anthropologue Nastassia Martin, qui a étudié les Gwich'in, dernière société alaskienne à avoir été touchée par l'Occident. Elle s'attendait à rentrer en communion avec la nature en allant la voir, avec la nature sauvage. Au lieu de ça, en arrivant à 13 km du cercle arctique, elle trouve des villages en ruine, des habitants absolument déprimés, aux frontières d'une nature certes sublime, mais ceinturée de parcs nationaux et survolée par des coucous pleins de touristes. La nature est comme parquée et les hommes rejetés hors de leur territoire. Elle commence à déprimer et puis elle travaille sur cette société qui rejette à la fois capitalisme et écologie radicale. Elle finit par conclure « Par mon travail, je montre qu'il existe d'autres voies de sortie. Il n'y a pas qu'un seul mode de relation au monde. Cette diversité de faire monde existe encore. C'est justement la crise qui les révèle quand le monde semble craquer et se fissurer. Des pompiers et des urgentistes pour réparer les failles dans un premier temps. Oui, ça nous laisse ensuite le temps pour imaginer d'autres mondes. »
Merci beaucoup Marie Misset. Oui. Très très bon rapport à la nature ici dans cette chambre d'hôtel cannoise où les gens continuent à tambouriner pour me dire qu'est-ce que vous faites ici, cette chambre n'est pas votre nom. Je voudrais juste avant, peut-être vous avez peut-être des envies de pub, des envies de musique, après un enfant, un poème, un producteur américain nous montre qu'il n'y a pas que l'Amérique de Trump, il n'y a pas que des chevelures hyperoxydées, des menaces d'attaquer l'Iran avec des missiles saoudiens, il y a aussi la poésie de Verlaine, très appréciée par les Américains. Lloyd Kaufman de Trauma dans du Verlaine.
Il faut dire que c'est inspiré, ces poèmes inspirés par Edward Bayer, avec lequel j'ai passé deux années très jolies.
Coucou, vous coupez. Du Verlaine par Lloyd Kaufman.
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'ennuie. Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil n'a pas raison. Roman sans parole par Edward Bear. Non.
Merci beaucoup. François Rollin, on a eu ce matin.
François Rollin, il n'est pas là, mais je suis avec Philippe Catherine et Alka Balbir qui vont faire un live tout à l'heure.
Ils sont déjà en studio, c'est une très belle nouvelle. Qu'ils ont entendu ce poème ? Est-ce que Philippe Catherine a été ému ? Que Verlaine est quelque chose qui vous touche, Philippe Catherine ?
Oui, je réagis très positivement.
Vous mettriez, si vous aviez un petit truc avec des notes, vous mettriez une belle note à Lloyd Kaufman ?
Oui, puis alors l'accent américain, c'est texan peut-être ? Non, pas du tout.
Non, Lloyd, okay, je vous fais pas très
ça,
bon,
ça va très bien à Verlaine, en tout cas, cet accent.
Oui, on dirait un GI sur les côtes normandes qui vient de libérer la France et qui dit un poème dans un village normand pendant qu'il mange un camembert. Il dit « Je connais la France » et tout.
Nous sommes en larmes à Paris.
Oui.
Peut-être après avoir avalé ce camembert afin de libérer la bouche et qu'elle ne soit pas encombrée.
Oui, c'est ça un peu. Il y a Alka qui est avec nous aussi, qui va chanter.
Alka, bonjour.
Bonjour.
On me fait signe qu'on va mettre à publicité. Philippe Catherine, vous regardiez l'école des fans de Jacques Martin, enfant ?
Oui, excessivement. Oui, j'aimais beaucoup. Mais là, c'est vrai qu'il y avait une relation ambiguë, enfant-adulte, qui était très intéressant à observer déjà.
Alka, vous êtes une génération post l'école des fans. Ça évoque quelque chose pour vous, ces enfants qui disaient chanter du Carlos, qui se voyaient offrir des tracteurs à pile?
Bien sûr, ça évoque pour moi l'époque de mes rêves, tout ce que j'ai raté, tout ce qui est passé.
Je vous remercie beaucoup, on me fait signe de me taire. C'est un fait. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Qu'avec une minute de retard, les infos de Thierry Paré.
Le bilan de l'attentat de Manchester vient d'être revu à la hausse. Il fait état désormais de 22 morts et d'une cinquantaine de blessés. Alors cette fois, c'est sûr et certain, il s'agit bien d'un attentat. Attentat suicide, une personne, une seule, s'est fait exploser à 22h30 hier soir, 23h30 en France, à l'une des entrées principales de la Manchester Arena, c'est une salle de concert, où se produisait l'artiste américaine Ariana Grande. La salle était bondée d'adolescents essentiellement. L'attentat s'est produit au pire endroit, une entrée donc de la salle, mais surtout au pire moment, puisque le concert venait de se terminer et donc les spectateurs rejoignaient tranquillement les sortie du bâtiment. Pour l'instant, il n'y a aucune revendication. Suite à cette attaque, il y a eu une alerte. La police a procédé à une explosion contrôlée dans les jardins de la cathédrale de Manchester, située à quelques dizaines de mètres de la salle de concert, tout près de la gare Victoria. Mais il s'agissait finalement d'une fausse alerte. Comme en France, la Grande-Bretagne s'apprête à voter le mois prochain pour des élections législatives. Theresa May, la première ministre britannique, a annoncé qu'elle suspendait la campagne de son parti. Même chose pour son adversaire travailliste, Jeremy Corbyn. Et le gouvernement britannique va se réunir ce matin pour évaluer la situation. Le dernier attentat de cette ampleur en Angleterre, il remonte à juillet 2005 à Londres. Il y avait 56 personnes qui avaient été tuées à l'époque. Les autorités de New York ont décidé, elles aussi, de renforcer les mesures de sécurité sur plusieurs sites qualifiés de sensibles. C'est une réaction, évidemment, à l'attaque de Manchester en Angleterre. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron va recevoir les principaux syndicats professionnels et organisations patronales aujourd'hui à l'Élysée, à commencer par la CFDT dès 9h ce matin, donc dans une demi-heure. Au programme des discussions, le délicat sujet de la réforme du Code du travail, dossier explosif, le chef de l'État entend légiférer par ordonnance. Le tribunal de commerce de Poitiers va se prononcer, lui, ce matin sur l'avenir, enfin ce matin ou cet après-midi d'ailleurs, sur l'avenir du groupe GM et S Industrie, menacé de liquidation judiciaire. Le personnel a prévu de manifester devant le tribunal. La justice brésilienne accuse l'ex-président Lula de nouveaux faits de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre du vaste scandale Petrobras, toujours le même. L'ex-présidente sud-coréenne Park Jong-hee a comparu hier devant un tribunal de Séoul à l'ouverture de son procès pour corruption dans la retentissante affaire qui a précipité sa destitution. 100 000 fonctionnaires voués à l'anéantissement professionnel en Turquie. L'expression est signée Amnesty International dans le cadre de la purge qui a suivi le coup d'État manqué de juillet 2016. Médecins, policiers, enseignants, universitaires, soldats, autant de personnes bannies de la fonction publique, soudainement qualifiées de terroristes du jour au lendemain, en luttant désormais pour joindre tout simplement les deux bouts. Et puis la réforme des rythmes scolaires, elle aura fait long feu à Marseille. La ville n'attend que la publication du décret d'application donnant le choix aux communes de renoncer ou non à cette réforme pour tout arrêter. Concrètement, Marseille reviendrait donc à la semaine de 4 jours à l'école.
Mais on a parlé de Zidane hier, on n'en reparle pas aujourd'hui, je suis un peu fou avec ça. Mais
ouais, bon, c'était vraiment hier, là, pour le
coup. Oui, mais
c'est
ça
même
m'a
dimanche,
tellement plu hier, les images de le faire sauter, de l'arroser au champagne.
Ouais.
Que...
Ah, c'est vrai.
Voilà. On est mardi aujourd'hui, non?
On est mardi.
Mais c'est quoi le mardi? C'est
excellent.
L'animal du mardi, voilà.
Excellent.
L'animal du mardi.
Oui, le voilà, l'animal du mardi. Ce matin, c'est le Bernard l'ermite. Alors, contrairement à son frère Thierry, le Bernard l'ermite n'apparaît pas souvent au cinéma. Il a bien fait de la figuration sur la plage dans le film Les Bronzés, mais on ne le voyait pas bien à cause de sa petite taille et il a été coupé au montage. Le Bernard l'ermite est également appelé Pagure, mais cette dénomination ne présente pas d'intérêt en termes de rigolade, car il n'y a pas de grand acteur français qui s'appelle Thierry Pagure. Le Bernard l'ermite est un peu le coucou des mères, puisqu'il ne fabrique pas lui-même sa coquille, et il habite par conséquent la coquille des autres. Certes, le Bernard l'ermite attend que le propriétaire de la coquille convoitée soit mort, mais on le suspecte de souhaiter, pour des raisons parfaitement vénales, la mort du dit propriétaire, ce qui n'est pas très reluisant moralement. Pour finir, je vais vous parler d'un phénomène social très étonnant chez les Bernard l'ermite. Vous n'allez pas me croire, et vous aurez tort. c'est ce qu'on appelle la chaîne de vacances. Les Bernard l'Ermite grossissent au cours de leur vie et au bout d'un moment, ils se retrouvent à l'étroit dans leur coquille de départ. Alors, ils se réunissent à 10 ou 12 autour d'une grosse coquille vide. Le plus gros de la troupe investit cette grosse coquille et cède sa coquille au deuxième plus gros, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au bout de la chaîne, il ne reste que la coquille vide du plus petit. Voilà. Il ne serait pas inintéressant que les Parisiens procèdent de la même façon avec leurs appartements.
Merci, merci beaucoup, François.
On a beaucoup à apprendre.
Derrière l'humoriste animalier, il y a un moraliste, hein, François.
Un économiste aussi.
Bah, c'est-à-dire que c'est vrai, le Bernard l'Ermite, j'essaye de le comprendre, j'essaye d'accepter sa différence, et en même temps, il y a des moments où je le trouve un petit peu, moralement.
Vous ne jugez pas, au fond, François. Vous accueillez la différence.
Oui, parce que j'essaye en tout cas, voilà, j'essaye. Je ne dis pas que je l'accueille, mais j'essaye de l'accueillir, ça c'est vrai.
Mais juste...
Atmel.
Non, je sais pas, on prend Jacques Souvent ou pas, Jacques?
Eh ben, on est à fond dans l'aventure, Jacques Souvent, on est à fond dans les rues de Palab, ce petit titi parisien, ce petit poulebeau est là dans les rues, cet enfant du macadam est avec qui?
C'est du son, hein, pour le moment.
Non, c'est moi ça peut s'admettre. C'est de la beauté, là.
Rouge, piton, place, de la nation.
C'est très, très beau.
Rouge, piton, place, de la nation.
C'est très beau, la césure, après le de la. On ne sait pas de la quoi, et le miracle arrive, la nation.
C'est de l'art, hein. C'est de l'art sonore.
C'est très très beau. Est-ce que vous voulez nous dire aussi, Jacques Souvent, que vous avez une émission qui passe sur Nova tous les samedis à quelle heure?
À 13h.
Qui s'appelle Place de la Nation. Vous êtes dans l'auto-célébration?
Oui, c'est une chouette pub, non? C'est pas mal.
Ouais, c'était très beau. Qui parle comme ça? C'est le bus, c'est le métro ou c'est le feu vert qui parle?
En fait, c'est le signal sonore pour les gens qui sont malentendants, vous savez, ou aveugles.
Mais alors, est-ce que nous qui entendons pas si mal ou qui voyons avons le droit d'en profiter quand même?
Ben oui, c'est pour ça. On appuie sur cette petite manette. Mais là j'étais devant en fait une affiche Björn Borg McEnroe, vous savez, ils vont sortir un nouveau documentaire là, une colonne Maurice avec le Borg qui est de dos avec son petit bandeau sur la tête, et je cherchais quelqu'un pour refaire le match.
Alors les matchs Björn Borg McEnroe, c'était, il y avait Björn Borg Connors qui étaient les matchs les plus ennuyeux de l'histoire du tennis, hein, c'était ma génération, puisque c'était toujours 7-6, 7-6, 7-6, avec des échanges de fond de court qui duraient entre une heure et une heure et demie l'échange. C'était une autre vision du tennis. On pouvait s'endormir, se réveiller, l'échange continuait. Mais heureusement, il y avait McEnroe qui, lui, grâce à ses colères, ses coups de gueule...
C'était Sarah Kess tout le temps qui était énervé, qui insultait les arbitres.
Ouais.
Et donc, je cherche un petit McEnroe. Moi, je veux bien faire Borg. Monsieur, bonjour.
Oui.
Borg McEnroe, vous avez connu?
Quoi donc?
Borg McEnroe. Ouais. Ouais. Il s'en fout complètement, lui.
Voilà. A-t-il tort?
Oui.
Complètement.
Non, mais le qui donc était très bien, le qui donc.
Au revoir quand même.
Ici aussi, Jack, on est très McEnroe. Lloyd Kaufman, oui. Le producteur légendaire américain de Trauma, a vécu cette génération. Qu'est-ce qu'il reste en Amérique de l'amour pour McEnroe, pour Connors, pour ces joueurs de tennis?
Connors est mort, je crois, non?
Ils sont très bien aimé. Et McEnroe, il est du même lycée que moi, Trinity School à New York, même lycée.
Quel enfant était-il, McEnroe? Serviable? Est-ce qu'on pouvait copier par-dessus son épaule? Est-ce que c'était un bon camarade de classe, Lloyd?
Il a à peu près 50 ans moins que moi, alors j'ai jamais fait sa connaissance. Mais...
Il suffit de redoubler beaucoup de classes pour se retrouver mélangé à d'autres générations?
Je dirais qu'il est assez... maintenant, je crois qu'il est très bien aimé par les citoyennes. Et je crois qu'il est encore très... quant à moi, il est très sexy toujours. Je masturbe.
Oui, je suis obligé de vous interrompre pour ne pas nuire à votre carrière de producteur. Merci, Jack. Vous êtes toujours dans la rue?
Bah oui, je cherche toujours un partenaire, mais il n'y en a pas, alors. Il n'y en a pas.
Alors, je crois qu'il y a des...
Ils ne veulent pas. Peut-être François Rollin veut faire McEnroe.
Volontiers, moi j'ai...
Bon, allez-y, Hervé, alors.
C'est une phrase que vous avez beaucoup entendue dans votre vie, François, tu veux faire McEnroe?
Oui, parce que je lui ressemble, hein, parce que j'ai la même, la même musculature, hein, c'est un peu ça. Alors attention, je serre.
Vous allez au service.
Ça y est, vous avez entendu, c'est une balle, ce qu'on appelle une balle de joue.
Hey, ça allait passer, elle est bonne. Elle est bonne. Bravo.
C'est de toute beauté, merci messieurs.
7h, 9h, plus près de toi.
Ça va ? Plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu. 7h, 9h, plus près de toi. On va.
Plus près de toi, bien sûr, mais c'est partout, partout et avec tout le monde. Stéphane de Freitas, le réalisateur d'À Voix Haute, est toujours là, héroïque, superbe, vivant le rêve de son film qui touche énormément les gens, Stéphane. C'est incroyable, rarement un film a autant ému les gens récemment, un film documentaire sur ces jeunes étudiants de Seine-Saint-Denis qui se tout à coup se livrent à l'art oratoire, qui font des débats, qui apprennent à parler et qui s'amusent avec les mots. Qu'est-ce que vous entendez le plus sur ce film? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les retours?
Les retours qui reviennent, c'est souvent ça fait du bien parce qu'on est dans une société justement qui s'est morcelée ces dernières années et qui a été un peu, la campagne présidentielle un peu a cristallisé tout ça. Et nous, on a sorti notre film justement 3 semaines avant le premier tour. Et en parallèle, pendant qu'on s'écharpait, pendant que dans les débats un petit peu, on utilisait la parole justement pour s'attaquer, pour punchliner, il y avait ce film qui parlait de ces jeunes à Saint-Denis qui se parlent dans le respect, l'écoute, la bienveillance, et que du coup on était un peu à contre-courant, je vais dire, par rapport à toute cette tension ambiante dans la cité au sens grec du terme, et que justement la voix des cités parfois est pas celle qu'on a programmée, qu'on a caricaturée, qu'on a traitée de manière souvent simpliste, et je pense que le message qui revient souvent c'est que ça fait du bien.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un film bien pensant, c'est un film très drôle. C'est qu'on voit que la parole ne sert pas juste à se tirer de situations graves, à s'invectiver, à gagner l'un contre l'autre. C'est aussi un jeu pur, quoi, les mots. C'est ça qu'on voit aussi dans le film.
Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'était pas de prendre un parti pris dramaturgique, c'est de drama, on va dire. C'était surtout de montrer la parole de cette jeunesse dans des moments de tendresse, dans des moments d'humour. Ils ont des battles, ils doivent faire preuve de créativité. Alors ça se chambre aussi. C'est aussi la voix d'une jeunesse aussi, comme dans beaucoup d'autres environnements, pas uniquement celle des banlieues, quoi. Donc c'est aussi une fête de la parole, on va dire.
Alors, toutes les générations se chantent, puisque Roland me disait « ça va, vieux con », c'est vous dire à quel niveau d'esprit on est aussi, nous, les octogénaires. Stéphane de Freitas doit rejoindre le festival, puisque ce jeune documentariste est maintenant invité officiel du Festival de Cannes. 4 limousines, des motards. Quand je vois ces jeunes de Seine-Saint-Denis en smoking grossier, tandis que moi, je suis dans une cave, je me dis vraiment que nous autres, je comprends la colère du petit blanc. Oh, putain de... Alors, je suis Stéphane, merci. Lloyd Kaufman va partir aussi, ça c'est à ma demande. Oui. Je vais demander à Lloyd Kaufman, le producteur légendaire des films Trauma, de partir. Il est venu ici avec son nouveau film Return to New Came High, volume 2. Le titre est déjà, nous culte. Pousse déjà à aller le voir. Even the title is great, is a success, Lloyd. Comment est-ce qu'on fait des titres aussi formidables qui nous donnent envie de retourner au cinéma?
On essaie de trouver les titres plus difficiles de se souvenir. Comme ça, personne n'entend de parler de trauma. Ça fait 50 ans que je tourne les films longs, les longs films, mais personne n'est au courant. Sauf...
C'est pas vrai. Les gens
sauf beaucoup... Edward Baird.
Non, les gens aiment beaucoup les films de trauma. C'est des films de légende. Et Lloyd Kaufman fait partie du patrimoine mondial. Oui. De quoi, de gentillesse, d'esprit. Et puis c'est l'homme le plus élégant du cinéma underground, hein, puisqu'il a
le cinéma indépendant. Il faut préserver le cinéma indépendant et net neutrality sur l'internet, parce que maintenant aux États-Unis et en Angleterre, on essaie de annuler le net neutrality, le net internet démocratique et divers. On veut faire des classes de internet. C'est très mauvais pour l'innovation. Alors, Tromé est ici, et pour Return to Newcomb High AK Volume 2, et pour préserver net neutrality on the Internet.
Merci Lloyd. Lloyd qui était aussi, je rappelle, qui est très 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 élégant. Il a toujours une veste magnifique, et depuis 20 ans que je le connais, c'est la même.
C'est la même, très bien.
C'est la même élégance, c'est ça. Salut les gars, merci beaucoup.
On vous prend le crachoir pour
jouer avec François Rollin. Il y a une envie de jouer avec François Rollin. Oui. Atmen, filez rejoindre Philippe, Catherine et Alka. Oui. On va avoir quelques mots, mais il faut que François Rollin nous fasse jouer.
Mais oui, le grand jeu, c'est maintenant.
Il est bien ce ton à la Guiluc.
Hein, voilà, alors Festival de Cannes oblige, ce matin, un grand quiz cinéma. doté d'un grand prix, de 600 kilos de maroilles et 3 tonneaux de bière blanche. Mmh. Alors, un grand quiz, pas si grand que ça en réalité, puisqu'il ne comporte qu'une question, la voici. Donnez-moi le titre du film réalisé par Danny Boone en 2008, qui raconte l'histoire de Philippe, le directeur d'une agence de la Poste à Salon de Provence, joué par Cadmerade, qui, à la suite d'une tentative grossière de tricherie, se voit muté dans le Nord, entre Dunkerque et Lille. Il est accueilli dans son nouvel emploi par Antoine, interprété par Danny Boone lui-même, un authentique gars du Nord qui va, à force de naturel et de sincérité, donner à Philippe le goût d'habiter sa région. Alors, petite précision, Julie, l'épouse de Philippe, est jouée par Zoé Félix, peut-être ça vous aide un petit peu, et la mère d'Antoine est interprétée par Lynn Renaud. Pour vous aider encore un peu, j'ajoute que les collègues d'Antoine sont joués par Philippe Duquesne et Guy Lecluise, et que Michel Galabru fait une apparition remarquable dans le rôle du grand-oncle de Julie. Je vois les deux maris autour de moi, elles n'ont toujours pas idée. Alors,
pas le mot ch'touille.
Encore un petit indice.
Ouvert la nuit.
Alors, Ouvert la nuit, c'est ce très beau film d'Edouard Baird. Vous n'êtes pas très loin en termes d'entrée dans les salles, mais c'est pas ce titre que je cherche. Alors, un dernier indice, la musique du film est signée Philippe Rombi. Les décors sont d'Alain Vessier et Sébastien Monteux à l'heure.
Ah oui.
Les costumes. Ah, ça commence à venir. Les costumes sont de Florence Sadone, ça vous confirme?
Ah non.
Oui, oui. Et le son est assuré par Lucien Balibar, Franck Desmoulins, Roman Dimny et François Groot.
Oui, là c'est plus simple.
Alors
Groot, ah bah, je pense que c'est bienvenu chez les ch'tis, c'est au moment des costumes, je m'en suis
aperçu. Ah oui, formidable. Bon ben bah, alors les 600 kilos de maroilles, Edouard, sont pour vous. Et merci. Les 3 tonneaux de bière blanche, on les garde ici.
Je les remets en jeu, François. François, et tout de suite après, on va retrouver Atmen avec Philippe Catherine et Alka. Merci les amis. Atmen, vous êtes avec Philippe Catherine et Alka dans
oui,
le...
Oui, oui, je suis sous la verrière de Nova, c'est mieux que Cannes, il y a du monde ou pas? Oui, tout ça pour Alka Balbir, et accompagné de Philippe Catherine et Jean-Philippe Heurtaud au piano, au clavier. Hein. Voilà. Alors je laisse Rudy, on les applaudit bien fort, c'est magnifique. Ils sont matinales, ils sont beaux. Je laisse Rudy Aboab les présenter.
Assieds-toi, Alka et Philippe.
C'est magnifique, il y a un monde fou. Alka est là, là et encore par là. Alka vous réveille tous les matins en nous susurrant, déclamant qu'elle est plus près de toi. Alka lance, vous élance tous les soirs en étant la voix du générique du Nova Club de David Blow. Alka fait partie de la troupe d'un certain Edouard que parfois elle quitte pour devenir, par exemple, Samira dans le film loufoque titré Gaz de France avec Philippe Catherine ici présent. Alka a toujours chanté. Son premier album était une première fois il y a 3 ans, composé et produit par Benjamin Biolay. Puis parfois, Alka lâche à nouveau son micro pour se muer en d'autres personnages, tels Rain sur les planches dans Mari et femme de Woody Allen. Mais Alka, quand elle rencontre son mec, elle est prête à tout, à se lever très tôt, à traîner son mec qui n'est pourtant pas un rigolo pour venir le faire chanter sous la verrière de Nova. Son mec, il semble aimer boire des coups, il veut nous en mettre aussi. Du coup, nous avons voulu prendre un petit déjeuner en leur compagnie. La fille, c'est Alka Balbir, le mec, c'est Philippe Catherine, le médiateur, c'est Jean-Philippe Heurtaud. Le titre, c'est Mon mec qui sort aujourd'hui d'un album qui est dans l'air et qui ne tardera pas à arriver. Bienvenue.
Merci, bonjour.
Alka, je suis trop content que vous soyez là avec Philippe.
Non, Edouard parle, je crois.
Allô, non, je voulais vous embrasser, vous dire que j'étais trop heureux que vous soyez là tous les deux ce matin. Et je crois que le bonhomme a fait m'éloigner, donc je vais vous écouter comme les autres auditeurs de ma chambre.
En gros, Edouard vous embrasse très fort.
Et il dit qu'il vous aime.
Voilà, ah, pardon. Pas mal. À tout de suite. Attends. Alka et Philippe Catherine.
Mon mec... C'est toi.
À demain.
Merci.
À demain.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.